paraît que l'on vit tous dans un sous-marin jaune, bonsoir. Le nôtre navigue dans les eaux plus ou moins troubles de l'actualité du lundi au vendredi, excepté le mercredi, jour des enfants pendant lequel nous devons nous reposer. Nous sommes de chaque thématique, qu'elle soit politique, économique, associative, étudiante ou navale, qu'elle soit nationale, locale ou sur un point égaré des eaux internationales. Sonar activé, périscope remonté, rien nous échappe. Ici Tiphaine, votre commandant de bord pendant cette heure en eau profonde, et avec moi ce soir au poste de manœuvre, Nanette, Quentin et Pierre-Antoine. Ce soir, au sommaire du sous-marin, nous entendrons Christine Bessin et Benoît Richaudot de l'association Aide du Maine-et-Loire qui nous parleront de la question du sida aujourd'hui, des actions menées par Aide, tant en termes de prévention que de dépistage. À 19h30, dans ta chronique géopolitique, Quentin, tu feras un point sur la situation en Thaïlande.
On reparlera de Yingluck.
Et vers 19h45, Pierre-Antoine reviendra sur la réglementation sur les travailleurs détachés, c'est ça ?
Ouais, je crois que c'est la fin du plombier polonais.
Vous êtes bien compliqué ce soir. Et comme chaque soir, en fin d'émission, vous retrouverez l'agenda de cette soirée et la bulle sonore. Mais avant toute chose, comme chaque mardi, voici le billet d'humeur de Nanette qui revient sur la situation en Ukraine. Ce soir, elle n'est pas en studio, elle est en boîte.
Un pays où tout le monde boit de la vodka, a un cousin dans la mafia et s'appelle Victor Tchoukotchouk avec des cas partout, sinon c'est pas drôle. Non, ce n'est pas la Russie, mais presque, je vous emmène en Ukraine. Bon, pour les gens qui sont un peu lents du cerveau, je vais resituer la situation. En Ukraine, le président, qui s'appelle Viktor Yanukovych, si, je vous assure, il veut faire copain-copain avec les Russes, non pas pour la vodka, n'est-ce pas, mais surtout pour le fric. Oui, je sais, c'est dingue, quand c'est pas l'alcool, c'est l'argent. Donc on a d'un côté l'ami des Russes qui veut des yachts et des hélicoptères pour Noël avec l'argent des Russies, et de l'autre, les opposants qui se rebellent. Les opposants, ce sont les gentils, ils veulent être amis avec nous, avec l'Europe. Bon, là, on comprend encore moins, ça doit être pour nos belles gueules, parce que c'est pas là-bas qu'ils trouveront de l'argent. Et ces gentils, ils ont une maman. C'est l'ancienne première ministre, elle s'appelle Lulia Tymoshenko, avec un K toujours, on reste en Ukraine. C'est une jolie blonde et elle a un surnom particulier, Docteur Point d'Acier. Non mais sérieusement, si je vous dis ça, Docteur Point d'Acier, vous pensez à quoi? Vous pensez au grand méchant tout en ferraille d'un bon film américain, le méchant qui veut tuer tous les gentils et qui s'éclate à faire des bruits bizarres avec sa voix pour faire peur? Ben non, en Ukraine, Docteur Point d'Acier, c'est la jolie Lulia. C'est pas en France qu'on surnommerait François Couille de fer, non. Vraiment, le petit nom de François, c'est Flamby. Oui, c'est sûr, c'est moins violent, mais ce n'est pas dans le même délire. En Ukraine, ils préfèrent le côté « fais gaffe à tes petites fesses, t'as pas intérêt à m'emmerder, sinon c'est mon poing dans ta... » Enfin bref, vous l'aurez compris, on est loin de la première dame chic et amoureuse. Le côté « bad girl » de Lulia, c'est qu'elle est en ce moment en prison. Ça la dérange à peine, elle continue de donner des ordres, pas à la femme de ménage, hein, mais carrément aux États-Unis, à l'Union européenne. Elle demande des sanctions contre Viktor Yanukovych et sa famille. Bref, du côté des gentils, du coup, on a maman docteur Frankenstein dans sa cellule, mais aussi on a un papa libre cette fois, heureusement. Il s'appelle Vitali Klitschko, vous voyez, je vous ai pas menti sur les noms ukrainiens, DK. Vitali, il a 41 ans, il fait 2m02, il est champion du monde de boxe catégorie poids lourd. Donc vous voyez, ça colle très bien avec Madame Dark Vador. En tout cas, ses opposants, ils nous aiment beaucoup. Ils sont des milliers chaque jour à camper devant le Parlement à Kiev. Ils se rassemblent place de l'indépendance, défilent dans les rues pour rameuter du monde. Ils installent des barricades à Tir-Larigot. Leur QG, c'est carrément l'hôtel de ville de Kiev, soyons fous. D'ailleurs, ça ne ressemble même plus à une mairie. Il y a des buffets avec de la bouffe, des gros tas de vêtements et tout ça gratuit parce que l'argent en Ukraine, il n'y en a plus. Et puis surtout, il y a des gens qui dorment partout, c'est la fête. Non, en fait, c'est plutôt la guerre. Les gens ont des casques et des masques à gaz chez eux. Face à toutes ces émeutes, le président, il est parti en Chine. Et puis quand il est revenu, il a quand même demandé au directeur de l'université de Kiev de balancer les noms des profs et des étudiants qui n'étaient pas en cours la semaine dernière. Ça va faire avancer les choses, c'est sûr. Sauf que le directeur, il a pas voulu lui donner les noms parce que lui aussi, il est parti manifester. Bref, le gouvernement ukrainien semble avoir un peu de mal face à la petite famille Popeye Dark Vador. On compte déjà plus d'une centaine de policiers blessés, ça la fout mal. Et aux dernières nouvelles, les opposants ont cassé avant-hier la statue de Lénine, ça va coûter cher à rembourser.
C'était le billet d'humeur de Nanette qu'on retrouve tous les mardis soirs. Tout de suite, on écoute Prince Kabyle, Bou. Broke.
girls, head so what's up. Hey, skid, take. Hey, skid, girls, head so what's up. Hey, skid, take. Hey, skid, girls, head so what's up. Hey, skid, take. Hey, skid, girls, head so what's up. Hey, skid, take. Hey, skid, girls, head so what's up. Hey, skid, take. Hey, skid, girls, head so what's up. Hey, skid, take. Hey, skid, girls, head so what's up. Hey, skid, take. Hey, skid, girls, head so what's up. Hey, skid, take. Hey, skid, girls, head so what's up. Hey, skid, take. Oh, shit, my flex the door. Hey, skid, girls, head so what's up. Hey, skid, take. Oh, shit, my flex the door. Hey, skid, girls, head so what's up. Hey, skid, take. Oh, shit, my flex the door. Hey, skid, girls, head so what's up. Hey, skid, take. Oh, shit, my flex the door. Hey, skid, girls, head so what's up. Hey, skid, take. Oh, shit, my flex the door. Hey, skid, girls, head so what's up. Hey, skid, take. Oh, shit, my flex the door. Hey, skid, girls, head so what's up. Hey, skid, take. Oh, shit, my flex the door.
Nouveaux cas dépistés en France chaque année, on en parle peut-être moins, mais le sida est encore omniprésent. La semaine dernière, à l'occasion de la Journée mondiale de la lutte contre le sida, Marisol Touraine, la ministre de la Santé, a parlé de diminuer la TVA sur les préservatifs, de 7 à 5,5%, symbolique mais insuffisant. Pour parler de prévention, de dépistage et des actions menées par Aide en Maine-et-Loire, nous avons reçu cet après-midi Christine Bessin et Benoît Richaudot de l'association On Écoute. Nous sommes en compagnie dans le sous-marin de Christine Bessin, déléguée du lieu de mobilisation Aide sur tout le Maine-et-Loire. Bonsoir, merci d'être avec nous.
Bonsoir.
Et de Benoît Richaudot, volontaire et élu au Conseil depuis 2 ans.
Oui, bonsoir.
Bonsoir. Merci d'être avec nous. Alors, quelques chiffres juste pour commencer sur cette question. En 2012, 35,3 millions de personnes vivaient avec le VIH dans le monde. 2,3 millions de personnes ont été nouvellement infectées par le virus et 1,6 million de personnes sont décédées de la maladie liée au sida. Ce sont des chiffres qui continuent à être énormes.
Alors effectivement, c'est des chiffres qui restent énormes, mais toute une partie de cette population est aussi une partie de la population qui est d'Afrique. En France, depuis quelques années, c'est toujours plus de 6000 contaminations annuelles, avec une petite tendance à l'augmentation à l'heure actuelle. Donc on considère qu'il y a toujours au minimum 30 000 personnes qui peuvent être séropositifs et qui ne font pas les dépistages, qui ne le savent pas et qui devraient être si possible dépistées pour pouvoir rentrer en traitement.
Alors j'aimerais juste qu'on commence par un petit vrai ou faux pour tuer les préjugés d'emblée et qu'on puisse discuter ensuite de vos actions. Première question ou première affirmation, le sida ne s'attrape que par le sang.
Alors par le sang, par les relations sexuelles, enfin tout ce qui est sperme, tout ce qui est muqueuse aussi. Donc
non, pas que par le sang.
Pas que par le sang, voilà.
Ça c'est un premier préjugé qu'on vient d'éliminer. Être séropositif et avoir le sida, c'est la même chose?
Alors non, ce n'est pas la même chose. Être séropositif, c'est quelqu'un qui a été contaminé par le virus, mais la maladie n'est pas enclenchée. Donc la personne a le virus en elle, mais peut avoir une vie quasi normale, d'autant plus si elle est sous traitement. Avoir le sida, c'est le moment où les personnes ont commencé à déclencher des premières maladies opportunistes et que on fasse sida, effectivement la personne ne peut plus se défendre, elle n'a plus de défense immunitaire.
Il y a un autre moyen que le préservatif pour se protéger du virus, vrai ou faux?
Pas vraiment, non.
Faux. Les relations homosexuelles présentent plus de risques que les relations hétérosexuelles?
Non.
Alors, si je peux rajouter, dans le Maine-et-Loire, par exemple, ou dans la région Pays de Loire, les contaminations, c'est 44% homosexuels. Le reste, ce sont des personnes hétérosexuelles. Donc, plus de contaminations hétéro que homo.
Voilà, vous venez d'encore tuer un préjugé. Et enfin, dernière affirmation, si j'ai eu une relation à risque hier soir, il n'y a plus rien à faire pour éviter de contracter le virus?
Alors ça, c'est... Enfin, il faut absolument aller au centre, enfin, aux urgences, voilà, au service de maladies infectieuses. Et donc, il y aura un traitement, justement, dans les 48 heures, enfin, 48 heures après la contamination ou la possible contamination.
Donc c'est toujours possible.
C'est toujours possible de stopper la contamination.
Et c'est un traitement qui se présente comment alors?
Alors nous, on suggère aux personnes que dans les 4 heures après la prise de risque maximum, elles puissent aller aux urgences, de façon à ce que la personne soit prise en charge le plus rapidement possible. Donc elle explique ce qui lui est arrivé, la prise de risque qu'elle a pu avoir. Elle va rencontrer un médecin. Le médecin va estimer si le risque est réel ou pas. Et en fonction de ce que le médecin va pouvoir lui penser, si le risque est réel, la personne va se retrouver en trithérapie, exactement comme quelqu'un qui est contaminé par le VIH. Et va prendre un traitement pendant 3 semaines. Mais dans plus de 90% des cas, le virus ne prend pas dans la personne à terme de ce traitement-là.
C'est important de le rappeler.
C'est très important parce que ça peut éviter de se retrouver avec un traitement à vie.
La trithérapie, ça se présente comment? C'est un traitement lourd, on le sait. C'est quelle fréquence par jour? Comment ça se prend?
Alors les trithérapies, à l'heure actuelle, tout dépend des médicaments, puisqu'il y a toutes sortes de médicaments. Donc c'est un peu le médecin qui fait le cocktail, en fonction de la personne, de son poids, de son état de santé. Enfin, il y a plein de critères. Et donc dans chaque comprimé, il y a plusieurs molécules qui peuvent être mélangées. Donc on a des personnes qui prennent 2, 3 comprimés, d'autres une seule. Après voilà, Mais il faut quand même savoir qu'effectivement, il y a beaucoup moins de prises qu'il y a eu il y a une vingtaine d'années ou même moins. Par contre, un traitement, c'est jamais anodin et que malgré tout, il y a des effets indésirables. Et que quand on prend un traitement contre le VIH, on prend un traitement à vie.
Donc on l'a vu, il y a encore beaucoup de préjugés qui restent. Est-ce qu'il y a encore aussi une certaine discrimination à l'égard des personnes séropositives aujourd'hui, en 2013, bientôt 2014?
Alors, discrimination, c'est une personne qui a le VIH, qui a contracté le sida, ça se voit pas sur son visage non plus. Donc, à moins que la personne décide de le dire et donc qui est à l'aise avec ça, c'est pas quelque chose qui est forcément. Enfin, il y a des yeux un petit peu mauvais et puis il y a des gens qui vont être un petit peu plus méfiants ou un petit peu plus mauvais. Mais c'est pas quelque chose qui est.
Ça fait plus peur, il y a plus de crainte.
Non, et c'est peut-être ça qui nous fait peur. Il n'y a plus vraiment de crainte contre ça.
Alors justement, la semaine dernière, le 1er décembre, c'était la journée mondiale de lutte contre le sida. Pourquoi est-ce qu'il est important d'avoir instauré cette journée et de la garder encore?
Mais pour rappeler qu'il y a toujours des contaminations, qu'il y a toujours besoin de faire de la recherche, de faire pas mal de choses, qu'on est toujours en train de faire des dépistages, des trottes, des actions justement pour dépister le plus grand nombre de personnes et histoire de, entre guillemets, sauver quelques personnes, quoi.
À côté de ça, il y a encore l'Afrique, avec le problème justement que les Africains n'ont pas les traitements, ou du moins avec des ruptures régulières de traitement. Donc on se bat pour que les personnes puissent avoir les mêmes traitements. Le problème du VIH n'est pas réglé, loin de là, puisque les contaminations ne diminuent pas de toute façon, et qu'on part du principe que si tout le monde savait si elle est contaminée ou pas, on pourrait alors ne pas éliminer le VIH, parce que de toute façon il y aurait quand même des gens contaminés, mais on pourrait éviter qu'il y ait des nouvelles contaminations, et donc ça permettrait justement de pouvoir mieux contrôler cette problématique.
Alors justement, un chiffre, en France, environ 6100 découvertes de séropositivité ont été relevées en 2011. C'est un nombre qui est stable depuis 2008, alors qu'il avait diminué entre 2004 et 2007. Est-ce qu'il y a un relâchement?
Oui, complètement, il y a un relâchement à l'heure actuelle. Nous, on le constate un petit peu plus chez les jeunes qui banalisent le VIH, qui sont peut-être moins attentifs à se protéger aussi, avec des prises de risque peut-être plus régulières.
Comment vous expliquez ça?
Je pense que, contrairement à certaines années, depuis quelque temps, on ne fait plus forcément de prévention, ou il n'y a plus de campagne publicitaire comme il y a pu y avoir à une époque, et qu'effectivement, il y a un relâchement, que le fait qu'il y ait des traitements, il y a aussi le fait de se dire « Bon, c'est pas grave, il y a un traitement, donc on sera soigné. » Mais un traitement, c'est pas anodin, parce que de toute façon, ce traitement, il sera à vie. On n'a encore rien trouvé pour éradiquer le VIH. Et que 25 ans de traitement ou 30 ans de traitement, c'est quand même pas rien.
Alors, juste pour rebondir sur des faits d'actualité, Marisol Touraine, la ministre de la Santé, s'est dite en avril favorable aux autotests. Ce sont des tests qu'on fait soi-même avec quelques gouttes de sang. Qu'est-ce que ça pourrait changer pour vous? Et d'ailleurs, c'est pour quand, ces autotests?
Alors, entre ce qu'annonce le gouvernement et la mise sur marché, il y a souvent des gros décalages. Nous, aide, on est favorable à l'autotest, mais on souhaite, comme d'autres associations, qu'il y ait un encadrement vis-à-vis de ces autotests. C'est facile d'avoir un autotest chez soi, de pouvoir le pratiquer. Encore faut-il bien le pratiquer. Mais lorsqu'on a une orientation qui est positive et qu'on est tout seul devant son test, ça peut être très compliqué à gérer. Et donc, nous, on demande au moins un minima, qu'il y ait des lignes téléphoniques qui fonctionnent 24 heures sur 24, pour que la personne ne se retrouve pas avec un test qui a une orientation positive, et sans savoir quoi faire, comment faire, et peut-être ne pas forcément y avoir réfléchi avant. Nous, on pratique le test rapide d'orientation diagnostique. dans nos actions. Donc c'est un test qui donne un résultat à grand maximum une demi-heure aux personnes. Et c'est vrai que dans les entretiens qu'on a avec les personnes, un de nos soucis est de pouvoir aborder avec la personne le fait de savoir si oui ou non elle a pensé au résultat. Et si elle a pu, ne serait-ce que à minima, envisager un résultat positif. Et quelquefois, il nous arrive que les gens nous disent « Ben non, j'y ai pas pensé ». Et donc, du coup, c'est tout un travail aussi à faire par rapport à ça. Et il nous arrive d'avoir des gens qui disent « Ben finalement, je vais peut-être y réfléchir avant. Et puis, je reviendrai un petit peu, peut-être dans une semaine ou deux semaines. Parce que du coup, j'aurais pu m'y préparer aussi psychologiquement. Parce que ça peut être très violent de se dire « Ben non, j'ai pas pris de risque ». Et puis, en fait, d'avoir un intervenant qui vous dise « Ben, l'orientation est positive ». Ça veut dire que malgré tout, la personne a pris un risque, elle n'en a pas forcément eu conscience. Mais si la personne n'y est pas préparée, ça peut être quand même très violent.
Alors, le dépistage, on en a parlé. Il y a aussi la question de la prévention en amont avec l'utilisation du préservatif. Là aussi, Marisol Touraine a fait une annonce à l'occasion de la Journée mondiale de la lutte contre le sida de faire passer le taux de TVA de 7% à 5,5%. Qu'est-ce que ça changerait ?
Baisser le taux de TVA, ça peut, enfin, je sais pas si ça va faire vraiment grand-chose pour les personnes qui vont aller en acheter. Ça reste quelque chose qui est assez, on va dire, assez cher.
Ça semble quand même aberrant de devoir payer pour un préservatif alors que c'est le seul moyen de lutter contre le sida.
C'est complètement aberrant, oui. Donc c'est vrai que si ça pouvait être gratuit, ce serait beaucoup mieux. Ce qu'il faut savoir, c'est que pour les personnes qui n'ont pas les moyens financiers de pouvoir acheter du préservatif, alors masculin comme féminin, parce que le féminin est très très cher, l'association, nous, on distribue des préservatifs gratuitement qui sont donnés par l'ARS. On a des permanences le mercredi matin, le vendredi matin, pour pouvoir donner du préservatif aux personnes qui en ont besoin.
Peut-être rappeler le lieu de la permanence ?
Alors la permanence, c'est au sein de l'association Aide, 1 rue Joubert, donc à Angers. Et le téléphone, si on a besoin de nous joindre, c'est le 02 41 88 76 00. Toute personne est bienvenue, même pour demander un renseignement, pour pouvoir avoir de l'info, on est à disposition des personnes.
Et on retrouvera Christine Bessin et Benoît Richaudot de Aide juste après la chronique de Quentin. Mais avant toute chose, voici Giovanni D'Amico, Darwin's Theory.
Thank you.
c'est l'heure de sortir la tête du sous-marin, mais vous pouvez garder votre scaphandrier. Quentin va nous parler géopolitique. On parle de rouge, de jaune et d'Asie, mais ce ne sont pas des Chinois communistes, c'est de la politique thaïlandaise.
La Thaïlande connaît depuis un mois d'intenses perturbations qui impliquent entre autres les chemises jaunes et les chemises rouges. Dernier rebondissement en date, la première ministre Yingluck Shinawatra a annoncé hier, pour calmer les nombreux manifestants qui s'en prennent à son régime, la dissolution du Parlement et l'organisation d'élections législatives anticipées le 2 février 2014. Seulement, la rue ne s'est pas calmée et pas moins de 150 000 personnes se sont pressées autour de divers ministères, n'hésitant pas, comme à leur habitude, à occuper les bâtiments publics pour empêcher le fonctionnement normal du gouvernement.
Pourquoi tu parlais de chemise ?
C'est le nom donné aux différents mouvements politiques en référence à des couleurs arborées lors de défilés. Les chemises rouges sont nées du parti d'un ancien Premier ministre, Thaksin Shinawatra, qui n'est autre que le frère de l'actuel Premier ministre Yingluck. Pour comprendre, il faut remonter à 2006 où, après des révélations de corruption, Thaksin avait subi un coup d'état militaire. Depuis, il vit en exil à Dubaï où il continue d'influencer la politique de son pays via sa sœur Yingluck. 4 ans plus tard, les partisans de Thaksin descendirent dans la rue alors que le gouvernement de l'époque, mis en place par l'armée, annonçait la confiscation d'une partie de la fortune de l'ancien Premier ministre qui était devenu milliardaire. Ces manifestations, les plus colossales jamais vues dans le pays, ont marqué l'histoire de la Thaïlande. Les chemises rouges sont essentiellement composées d'une population rurale, venue du nord, séduite par les quelques avancées sociales obtenues sous le régime de Thaksin et sa volonté d'indépendance vis-à-vis de la monarchie en place. La police les soutient. En opposition, les chemises jaunes sont issues du parti démocrate et rassemblent une élite urbaine pro-monarchiste. L'armée est de leur côté.
Je suis perdue. Lesquelles sont en train de manifester ?
Actuellement, ce sont les chemises jaunes qui manifestent. Yingluck et son gouvernement ont essayé de faire passer un amendement à la Constitution qui aurait permis à Thaksin de rentrer au pays sans être inquiété par les poursuites judiciaires à son encontre. Ce texte, qui n'était qu'un prétexte, a été voté par la Chambre des représentants il y a un mois, mais a ensuite été rejeté par le Sénat. La contestation se poursuivant, le Parlement a donc été dissous hier. Mais les opposants ne se sont pourtant pas arrêtés là. Ils réclament désormais la démission immédiate du gouvernement, qu'ils estiment discrédité par le scandale Thaksin.
Qui est leur leader ?
Le leader des manifestants est Suthep Thoksuban, un cadre du Parti démocrate soutenu par l'armée. C'est là que la situation se noircit. De la même façon que le clan Thaksin, Suthep, ancien vice-premier ministre sous le régime impulsé par l'armée, est également soupçonné d'avoir trempé dans des affaires de corruption, comme nombre de ses confrères. Suthep est à la tête d'un réseau clientéliste de notables venus du sud du pays, la région la plus riche. Il a également sur les mains le sang des 90 chemises rouges tuées lors de la répression violente des manifestations de 2010. Il est d'autant plus effrayant de constater que la proposition de Suthep pour son pays est un conseil pour le peuple. Entendez, un gouvernement restreint de dirigeants nommés par l'armée, soit une dictature consentie. Antinomique pour un homme issu d'une formation encore appelée Parti démocrate. On se rend compte que la Thaïlande voit s'opposer deux camps, emmenés chacun de leur côté par des groupes fermés d'hommes d'affaires qui utilisent le pouvoir politique comme levier pour s'enrichir chacun leur tour. Dans la lutte pour la suprématie, chaque clan a réussi à mobiliser autour de lui une portion conséquente d'une population encore naïve. C'est d'autant plus désolant que cette confrontation se fait en opposant deux régions culturellement opposées, le nord et le sud, risquant une évolution en conflit ethnique. La Thaïlande, parfois appelée le pays du sourire, a vu ce matin Yingluck Shinawatra pleurer. Elle refuse de démissionner, souhaitant assurer, à raison, une continuité du gouvernement jusqu'à la prochaine tenue des élections législatives. Elle devrait demander aux observateurs internationaux de surveiller de très près ce scrutin, ce qui empêcherait l'opposition de Suthep Thoksuban de boycotter le suffrage. Mais quoi qu'il en soit, nulle force politique ou politicien honnête ne semble se démarquer.
Merci Quentin, tu nous montres qu'il est difficile d'entrevoir une porte de sortie pour ce pays qui n'intéresse plus les étrangers que par son tourisme. Seconde partie de l'interview de Christine Bessin et de Benoît Richaudot de l'association Aide. Ils évoquent leur action sur le terrain. On va parler un peu plus concrètement de vos actions sur le terrain. Donc il y a ces actions d'écoute, de distribution de préservatifs féminins ou masculins. Qu'est-ce qui se passe d'autre à Aide en Maine-et-Loire comme ailleurs d'ailleurs ?
Alors on a aussi le deuxième mardi et le quatrième mardi le dépistage justement à l'association. Après on se déplace aussi dans certains lieux comme des barriquets, des saunas, des choses comme ça. On se déplace aussi sur Cholet. On va essayer de développer un peu Saumur aussi, si c'est possible. Sinon, on a pas mal de lieux de dépistage On a aussi la rue Parcheminerie, qui est plus ciblée pour les personnes migrantes, mais après, on refuse personne, voilà, exactement.
Est-ce que les jeunes viennent facilement se faire dépister, ou est-ce que la moyenne d'âge est plus élevée?
Alors, quand on a créé le dépistage, c'était une forte volonté de aide, on apportait ça très haut et très fort, et donc suite à une étude par la NRS, on a pu effectivement mettre en place le dépistage rapide non médicalisé, ce qui était quand même une première, puisque en général les dépistages sont réservés au milieu médical. Mais on avait une certaine expertise aussi des annonces de résultats, des accompagnements de personnes séropositives, donc ce qui permettait de pouvoir le faire dans de bonnes conditions. On a eu la formation aussi pour pouvoir travailler autour du dépistage. Après, j'ai envie de dire que la population qu'on voit le plus, ce sont quand même malgré tout des jeunes. Au niveau de aide, dans nos statuts, on est normalement le plus en lien à aller vers les publics qui sont le plus en lien avec l'épidémiologie, c'est-à-dire les personnes ayant des relations sexuelles avec des hommes, consommateurs de produits psychoactifs et grande précarité, ou personnes migrantes. Mais on se rend compte de plus en plus que, à l'heure actuelle, en 2013, sur plus de 1200 dépistages qu'on a réalisés, la majorité est une population de moins de 30 ans et beaucoup de jeunes.
Vous évoquez les populations à risque. On a beaucoup parlé du préservatif et du fait d'attraper le sida par des relations sexuelles. Il y a aussi toute la problématique des utilisateurs de drogue.
Alors, il y a la problématique des consommateurs de produits psychoactifs, effectivement. Donc, principalement par injection ou par voie de sniff, hein, puisque le sang est vecteur, hein, de la transmission VIH, que l'injection, quand on fait du partage de matériel, peut transmettre le VIH, et que sniffer avec des pailles et le passer à son voisin est aussi vecteur du VIH, mais pour ces publics-là, surtout des hépatites C.
Vous parliez tout à l'heure du traitement, vous disiez qu'il ne guérit pas du sida. Est-ce qu'il y a des recherches qui permettent d'avancer vers cet objectif-là?
Alors effectivement, il y a des recherches, hein. L'objectif, je pense, de tout chercheur, c'est de trouver soit le médicament, soit le vaccin qui va faire que on puisse détruire complètement le VIH dans le corps.
Non, mais où justement ?
Pour le moment, je pense qu'on a déjà beaucoup évolué, parce que le VIH, c'est quand même, il y a que 30 ans, hein. Et qu'en 30 ans, on est à la quatrième ligne des trithérapies, et donc avec des molécules qui sont très performantes, des nouveaux médicaments qui vont à nouveau sortir. Après, voilà, il n'y a plus qu'à espérer que, effectivement, à un moment donné, on puisse trouver le traitement qui va faire que on puisse détruire complètement le virus. Mais pour le moment, voilà.
On va rappeler le lieu de aide à Angers. On va rappeler le numéro de téléphone.
Alors, le téléphone 02 41 88 76 00.
Et la permanence?
Les permanences le mardi, deuxième mardi, quatrième mardi de chaque mois, donc de 17h à 20h, et permanence aussi physique le mercredi matin et le vendredi matin, donc de 9h à midi. Donc voilà, on accueille aussi toutes les personnes qui se retrouvent aussi bien dans l'homosexualité, la bisexualité, les personnes transsexuelles, toute personne qui s'interroge sur son orientation sexuelle ou sur ses prises de risque et qui a envie d'en savoir un petit peu plus. On est là aussi pour leur répondre, puisqu'on est sur tout le volet de la réduction des risques, hein, et toutes nos actions, tous nos accueils sont faits dans la confidentialité, mais surtout dans le non-jugement, ce qui permet aussi de pouvoir parler très librement de sa vie, de ses pratiques, de ses questions.
Merci beaucoup Christine Bessin et Benoît Richaudot d'avoir été dans le sous-marin ce soir.
Merci à vous.
De rien, merci à vous de nous avoir reçus.
Un dernier mot pour souligner que l'association Aide recherche des volontaires bénévoles pour agir contre le virus et également être à l'écoute lors des permanences. Attention, je précise qu'il ne s'agit pas des jeunes personnes en gilet rouge rue Saint-Aubin qui font un travail certes nécessaire mais néanmoins différent. Si vous êtes intéressé, contactez donc la permanence au 02 41 88 76 00. On remettra les coordonnées sur le site de la radio. Tout de suite, on s'écoute The Head and the Heart avec Shake. Mais qui vois-je ? Voici voilà notre chroniqueur politique du mardi soir, Pierre-Antoine. Le 5 décembre dernier, pour la première fois en France, un promoteur a été sanctionné pour avoir collaboré avec un sous-traitant polonais qui faisait travailler ses ouvriers étrangers illégalement en France. Une grande première qui tombait bien puisqu'hier, les ministres du Travail se réunissaient pour encadrer et réguler le travail détaché.
Non, je ne vous parlerai pas aujourd'hui de la mort de Nelson Mandela et des deux Falcons de Sarkozy et d'Hollande. Non, je ne vous parlerai pas aujourd'hui de la sortie de l'hôpital de Jacques Chirac et de sa demande de charcuterie de Corona. Non, je ne vous parlerai pas aujourd'hui de la Miss France 2014 et du flot d'insultes dont elle est victime sur Internet. Enfin, je ne parlerai pas non plus de l'opération d'Hollande en 2011, un non-fait politique à mon humble avis. Parlons plutôt aujourd'hui d'un sujet qui est passé un peu à la trappe ces derniers jours, chargé en émotions et en actualité. Je veux bien sûr parler du travail détaché. Du travail quoi ? Oui, vous avez bien entendu, du travail détaché.
Mais qu'est-ce que c'est, Pierre-Antoine, que le travail détaché ?
Le travail détaché, la vieille hantise du plombier polonais envoyé en France par son patron et volant le travail du bon français. Un stéréotype bien ancré dans les mentalités, le travail détaché, en gros, c'est quand ? Par exemple, habitant en France, tu es envoyé par ton entreprise faire une mission de quelques mois en Belgique. Mais voilà le problème, aucune limite de temps n'est fixée, c'est-à-dire que le travailleur peut rester des mois dans un pays tout en étant salarié pour le compte d'une entreprise étrangère, les charges salariales étant reversées au pays d'origine. La Voix du Nord parle même d'un écart de salaire et de prestations sociales pouvant aller à plus de 30% entre un salarié polonais et un salarié français. Francine Blanche de la CGT indique qu'on trouve souvent des employés qui sont payés 3 ou 4 euros de l'heure alors qu'ils devraient être tous au minimum au SMIC. Et oui, car ces travailleurs pauvres passent par de nombreux intermédiaires qui leur facturent logement et transport à prix très élevé. Et ça, c'est sans doute la pilule la plus douloureuse à avaler. Mais heureusement, nos chers politiciens ont réponse à tout. Ils se sont tous réunis hier lundi pour encadrer mieux cette pratique et mettre fin à ce dumping social inversé.
Et donc, que prévoit cet accord ?
Les 28 ministres du Travail de l'Union Européenne, et oui, il y avait notre ami Michel Sapin, vous savez, celui qui ressemble un peu à Gérard Jugnot, se sont réunis pour lutter contre les abus et les fraudes liées au détachement social. Mais mettre d'accord 28 pays sur une seule solution, ce n'est pas facile. Tous les jours, différentes positions s'opposaient. D'un côté, les pays comme l'Allemagne ou encore la France, qui souhaitaient plus de contrôle et des sanctions en cas d'abus, cela était la grande majorité, et de l'autre côté se trouvaient ceux qui voyaient en cette régulation une remise en cause de la libre circulation des travailleurs. On y trouvait bien sûr en première ligne le Royaume-Uni, pays archi-libéral opposé à toute législation sur les entreprises, ainsi que d'autres plus petits pays comme la Lettonie ou Malte. Heureusement, la Pologne, qui hésitait, s'est finalement rangée à la faveur d'une réglementation. À 21 contre 7, la directive a été adoptée.
C'est tout, juste des sanctions, pas de chiffres ou d'annonces précises ?
Et c'est là que le bât blesse des paroles, mais peu d'actes, nous ne savons presque rien sur le contenu de cette directive, simplement qu'il va être instauré le principe de responsabilité solidaire. Les entreprises donneuses d'ordre, c'est-à-dire celles qui sous-traitent à d'autres entreprises, qui elles seraient surprises à frauder, pourraient être condamnées de la même manière. C'est ce à quoi militait depuis longtemps la France. Michel Sapin indique d'ailleurs à l'AFP que ce fut la bataille la plus difficile, car cela rendait obligatoire l'instauration de règles nouvelles.
Et comment est prise cette nouvelle par les principaux concernés ?
Plutôt pas mal, les 250 militants syndicaux qui s'étaient regroupés devant le Conseil européen, manifestant pour harmoniser les règles sociales européennes pour le bien-être de la population, rien que ça, sont repartis satisfaits. En France, cette décision a été accueillie plutôt chaleureusement, mais elle ne s'attaque pas au fond du problème. Écoutez Jean-Eudes Duménil, secrétaire général de la CGPME, la Confédération Générale des Petites et Moyennes Entreprises. Il s'exprimait au micro de France Info.
La première bonne nouvelle, c'est qu'effectivement, il y a eu un accord. Le pays pourra, la France en l'occurrence, pourra sans doute contrôler davantage et de manière plus précise que la faculté qu'il avait aujourd'hui de le faire. C'est positif. Alors, est-ce que ça résout le problème ? Malheureusement, non. C'est-à-dire que probablement, ça va permettre de limiter les dégâts puisqu'on aura la possibilité d'avoir davantage de contrôle. Mais sur le fond du problème, et notamment sur le décalage des cotisations sociales de travailleurs employés en France payant des cotisations sociales dans leur pays d'origine, malheureusement, ça ne va pas régler le problème.
Alors, trop superficielle la réforme ?
Peut-être, mais ne blâmons pas nos chers ministres qui ont réussi pour une fois à se mettre d'accord. En tout cas, c'est un grand ouf de soulagement que l'on aurait sans doute pu entendre si François Hollande était face au micro. Enfin, une réforme qui est passée sans souci majeur. Peut-être que le chef de l'État, entre deux avions pour la Centrafrique ou le Mali, pourrait demander à son ministre du Travail comment les 28 se sont mis d'accord, parce que là, au moins, il n'y a pas eu de couac.
Et ça fait du bien pour une fois. Merci Pierre-Antoine, toujours prêt à donner de la voix pour nous éclairer sur un sujet politique. On termine avec les plans sortis pour ce soir et demain. À 20h15, les 400 coups projettent Pickpocket de Robert Bresson dans le cadre du cycle Le 7e art et la manière. La projection sera suivie d'une rencontre avec Jean-Charles Fitoussi. Bœuf Blues au T-Rock à 21h et session irlandaise au Welsh à la même heure. Demain, ce sera la première des bords de rond-point au théâtre du champ de bataille que nous recevions hier et
que vous allez entendre dans la bulle sonore. Ce sera à 19h30. Antigone de Sophocle se jouera au quai à la même heure. À 20h30, la compagnie Omississi jouera Identité à l'espace culturel Saint-Serge et au Téroc à 21h30, scène ouverte acoustique. Voilà, il est l'heure pour nous de lâcher l'immersion. Aux manettes ce soir, c'était David. Derrière les micros, Nanette, Quentin et Pierre-Antoine, vous pouvez nous réécouter en podcast sur notre site internet ou demain en rediffusion à partir de 13h. Tout de suite, vous retrouvez Perfusion, l'émission Santé et ensuite The Johnny Clash Show. Avant de remonter à la surface, on vous quitte avec la bulle sonore. Vous allez donc entendre Colline Morange, la metteur en scène des Bords de Rond-Point qui se joue demain au Théâtre du Champ de Bataille jusqu'à vendredi. Elle parle donc du concept même du Rond-Point. Maintenant, on vous quitte. Merci à vous d'avoir embarqué dans le sous-marin. Demain, à 19h, vous retrouvez l'Artichaut, l'émission culturelle de Radio Campus, avec comme invité Nathalie Béas. Nous, on se retrouve jeudi à 19h. Allez, bisous. À quel moment un rond-point devient le premier rôle dans une pièce de théâtre?
Alors, le rond-point. Alors, le dernier spectacle parlait des aires d'autoroute. Au l'air frais des bords de route, ça parlait des aires d'autoroute. Il me semblait logique de continuer dans la voirie. Et non, mais ça, je suis vachement intéressée par les non-lieux. Et souvent, c'est plus un espace qui va m'inspirer que une histoire ou un personnage avant tout. Enfin, je vais d'abord avoir un lieu qui va me donner des idées. Donc, c'est vraiment lié à un fonctionnement déjà personnel de création. Ensuite, le rond-point, c'est bête, mais on vient de Nantes et on est quand même la ville du rond-point, quoi. C'est la ville, où, c'est une ville test où il y a plus de 10 000 rond-points et c'est la plus grande agglomération de rond-points en France. Donc je pense que ça vient peut-être aussi du fait qu'on est nantais. Après, le rond-point, je trouve que c'est une forme intéressante qui peut aussi symboliquement raconter plein de choses. C'est une forme avec un trou au milieu, enfin un vide qui n'est jamais utilisé. C'est un espace public, mais en même temps où on ne va pas. Et puis c'est un espace où on ne peut pas vraiment se rencontrer. En général, quand on arrive en voiture, on tourne autour, mais on n'arrive pas, enfin on se croise pas. Quand on passe, mais il se passe rien, quoi. Pour moi, ça représente pas mal tous ces lieux étranges qui nous entourent aujourd'hui, les centres commerciaux, les aéroports, etc., qui sont pas faits pour se rencontrer non plus. Et pour moi, ça, c'est vraiment important de le concevoir par rapport à notre façon de penser, notre façon de vivre. Et ce qui m'intéresse au final, c'est qu'est-ce que ces espaces-là font sur notre intérieur. Et puis les ronds-points, ça a une dose d'absurdité pour moi qui est assez intéressante et qui je pense pouvait aller avec l'absurdité qu'on racontait dans notre spectacle. Donc un mémorial sur un rond-point, ça a un côté très banal, mais en même temps il n'y en a pas tant que ça, et je trouvais ça intéressant de bosser sur la forme, parce que c'est aussi chorégraphique, que c'est aussi théâtral. Je sais que quand j'étais en quatrième, je me suis rappelé de ça il n'y a pas longtemps, j'avais eu un projet à faire de réurbanisation d'un rond-point, et j'avais imaginé que toute une place à Nantes était retransformée en milliers de théâtres où tous les ronds-points en fait étaient des plateaux. Donc ça doit venir de loin.
Sur tous les ronds-points, on voit des sculptures improbables, des
complètement représentations. On en parlait avec Florent dans la voiture.
Sur le bord de mer, il y a des pêcheries sur les ronds-points. Enfin bon.
Il y a des artistes qui sont spécialisés en ronds-points, par exemple. ils gagnent leur vie en faisant des sculptures pour ronds-points. Après, en général, c'est les conseils municipaux qui décident, avec les urbanistes de la ville, de faire des ronds-points. Mais il y a quelques artistes qui sont spécialisés en ronds-points. Non, mais oui, moi je trouve ça hallucinant, parce que souvent sur les ronds-points, il y a des trucs qui sont quand même soit kitsch, soit moche, soit c'est vraiment... Donc il y a le côté à la fois absurde et souvent un peu kitsch du truc, mais il y a aussi le pourquoi on n'en ferait pas quelque chose de bien, de ces ronds-points? Est-ce que ça pourrait pas être des espaces de vie? En même temps, c'est bizarre parce qu'il y a la route autour, mais est-ce qu'on pourrait pas y faire des spectacles en vrai? Est-ce que... et pourquoi pas un mémorial aussi, quoi. We all live in a yellow submarine. Yellow submarine, yellow submarine. We all live in a yellow submarine. Yellow submarine, yellow submarine.